Moment d'histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Nantes tire son nom des Namnètes, peuple celte qui fonde la ville au IIe siècle. À partir de cette époque, se succèdent durant des siècles des générations et des générations de Nantais qui vivent et caractérisent l'histoire de la ville. Une histoire riche. De sa prise par les Francs de Clovis en 490, aux assauts des Bretons, puis des Vikings, ainsi que les manœuvres de l'Anjou. Au niveau régional, Nantes dispute à Rennes le titre de capitale de la Bretagne pendant le Moyen-Âge, puis prend son essor sous la Renaissance. Au XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, le personnage historique de la ville, parvient à garder l'autonomie de la Bretagne face au roi de France. Le meilleur témoin de cette époque reste le château des Ducs. Au début du XVIIIe, Nantes est le premier port d'Europe et développe le commerce triangulaire. Les armateurs vont considérablement transformer l'aspect de la ville en érigeant des hôtels particuliers, encore visibles aujourd'hui, notamment sur l'île Feydeau. Urbanisme qui est aussi le témoin du passé industriel de la ville. À partir du XIXe siècle, les chantiers navals bordent la Loire. Et des industries, BN, LU, bien connues des Nantais. Enfin, Nantes bombardée, Nantes détruite en 1943, puis Nantes reconstruite. La rue du Calvaire est la meilleure empreinte de ces grands travaux. 20 siècles d'histoire. Il serait réducteur d'évoquer en quelques phrases. Comment portons-nous cette histoire? En sommes-nous conscients? Comme le disait Jostein Gardner, nous ne vivons pas seulement notre époque, nous portons toute notre histoire avec nous.
Bonjour et bienvenue dans Moment d'Histoire, l'émission de Prune consacrée à l'histoire locale. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Pellet, autrice et biographe, venue nous présenter son livre « 44 célébrités de Loire-Atlantique ». Au fil de l'entretien, nous reviendrons sur son parcours, avant d'évoquer son ouvrage et quelques figures locales. Après l'interview, une chronique retraçant l'histoire d'un poilu sera rediffusée. Lucille Delanoë, quant à elle, viendra nous interpréter la nouvelle « Nantes s'endort » d'Eliane Larousse. Bonne émission.
Moment d'histoire.
Bonjour Isabelle Pellet.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Vous êtes née à Nantes un matin d'hiver au XXe siècle. Votre parcours au gré du vent est jalonné d'étapes où l'auteur a toujours été au rendez-vous. Vous vous êtes installée comme biographe l'année dernière. Plume polyvalente, vous écrivez à destination du public adulte comme du jeune public. Vous écrivez sur commande des guides, des pièces de théâtre, du contenu pour les scolaires ou même des chansons. Et ça, en français et en anglais. Cette année, vous publiez un livre consacré à l'histoire locale intitulé « 44 célébrités de Loire-Atlantique » aux éditions Le Petit Pavé. Avant de revenir plus amplement sur votre ouvrage, nous sommes curieux d'en savoir un peu plus sur vous, puisque vous n'avez pas toujours été autrice.
Non, effectivement, je n'ai pas toujours été autrice, même si j'ai toujours écrit à partir du moment où j'ai tenu un crayon dans ma main. Voilà, mais oui, effectivement, je suis rentrée dans la vie active en occupant des postes administratifs que j'ai travaillé à Nantes quelques années après avoir fini mes études. Et très rapidement, je suis partie vivre à New York, aux États-Unis, où je suis restée 10 ans. Donc là-bas, j'ai travaillé principalement dans le domaine de la formation continue, dans des grandes institutions internationales. Puis j'ai repris aussi des études en prenant des cours du soir. Je suis allée à l'université et j'ai obtenu un bachelor de psychologie.
Parlez-nous de votre vie à New York.
Oh ben, ma vie à New York, on peut se faire plein d'idées, mais en fait, c'était quand même une vie ordinaire. C'est-à-dire, les journées se suivaient comme elles auraient pu se suivre n'importe où. Et donc, je travaillais, j'allais à la fac, enfin une vie somme toute tout à fait normale. Bien sûr, j'en ai profité pour aller voir des spectacles à Broadway. Évidemment, hein, j'ai visité New York. Je suis montée en haut du World Trade Center parce qu'à l'époque, il existait encore. J'ai fait un petit peu de tourisme local, évidemment, dans la grosse pomme.
Comme partout où vous posez vos valises, l'eau n'est jamais loin. Est-ce que c'est une source d'inspiration ?
Alors, ce n'est pas particulièrement une source d'inspiration, mais c'est vrai que partout où j'ai vécu, je suis toujours quand même à côté de l'eau, à Nantes, à côté de la Loire. À New York, c'était pareil. Hein, j'étais pas loin de Lutzen, et puis de retour à Paris, c'était la Seine, et maintenant je suis à côté du lac de Grandlieu.
Pas très loin de Nantes.
Voilà.
Et à un moment de votre vie, vous vous êtes dit que vous allez devenir autrice. Comment s'est déroulée votre conversion ?
Alors, je n'appellerai pas ça une conversion. Pour moi, c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. Pour moi, je ne suis pas devenue autrice comme ça du jour au lendemain, en me disant, tiens, aujourd'hui, je décide d'être autrice. Je ne vois pas du tout comme ça, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours écrit. Alors, j'ai commencé par écrire de la poésie. Ensuite, j'ai commencé à écrire des petites histoires, des fables. Et puis, ensuite, j'ai commencé à écrire des chansons. Enfin, certains de mes textes ont été mis en musique. Et à partir de là, j'ai eu une phase où je me suis un petit peu tournée vers la chanson. Et en Bretagne, où j'ai vécu 8 ans, j'ai écrit un guide de balade commenté, Moëlan sur mer, Escale entre terre et mer. Ça a été en fait mon premier ouvrage qui a été publié. Ensuite, comme j'ai dû travailler, je n'ai pas eu l'occasion pendant un certain temps de me consacrer vraiment à l'écriture, même si j'ai toujours plus ou moins continué. Et plus récemment, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. D'ailleurs, suite à une commande d'écriture du Criseau de Théâtre à Orléans, ma première pièce a été jouée en 2018.
Et quel est son nom ?
Alors, c'était La saillie de l'innocence. C'est en fait l'histoire de Thésée et du Minotaure dans le labyrinthe.
Merci Isabelle Pellet. Et tout de suite, une pause musicale.
Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.
Fort, fort, Okinawa, Oriema, Oledibe, Yanyabe, Bazenko, Doa, Rishiema. Ils veulent savoir d'où tu viens, c'est quoi tes pièces avec les big boss, tu as des liens. Non, sois bloqué, mais qu'à tomber, si t'aimes, alors non, à caisse, mais. Si vous papa, vous m'aimez ça, vous m'aimez comme mes amis, sous coulé. Si vous allez voir leur chéri, quand je viens, comme un mes dossiers. Fofo kamu soda la nyewa Akma deo sosa Ekbe o tebya sila siga miambe Million, million, yo vena Gwaracha merekbe Makmono bumya merekbe o 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 Okwa meleji maklame Omnya fikebe so Omnya meke Jogbe je vya lekpa do me mile yo be gbolo Mi nyanu ke ye me beleto Ma ugare ka kwenya Yere ka kwenya nuke tutuele jwa Amele kuze micha Fachiplom le gomene gbangba ma tenya ula Nando ko tuga mla kola kaku hunga ke wamnya mere kwoma Vanu siya nuke lekle mundi si katus ki brine pa de loma Nwanto lekpa cham Wagbe tokwa be nuke waya Oh, it's a chiganga, my chadra doji meno kwanga Papa dango temburo bako, vaka babenyo mate weo mwenye plako Mida chimia benya wonu, marino chava nyina nula, alo lekwe ma Gwaracha merekwe, maklono bumya merekwe o Gwaracha merekwe, maklono bumya merekwe o Gwaracha merekwe, maklono bumya merekwe o Gwaracha
Retour dans Moment d'Histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. C'était Nobobi de Fofo Scafaro. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Pelé.
Courant 2021, vous publiez 44 célébrités de Loire-Atlantique aux éditions oui. Le Petit Pavé.
Édition Le Petit Pavé, c'est ça.
Quelle est la genèse du projet ?
Alors, la genèse du projet, c'est parce que je connaissais les éditions du Petit Pavé. J'avais quelques ouvrages de cette maison d'édition. Et je connaissais la collection. Et je me suis, en fait, j'ai réalisé que dans la collection, il n'y avait pas de livre sur la Loire-Atlantique. Donc j'ai tout simplement proposé à l'éditeur de m'en charger.
Donc vous déclarez au courrier du Pays de Ré, je vais vous citer, « Je ne suis pas historienne, je n'ai pas de prétention littéraire, mon souhait est surtout de faire découvrir des destinées différentes. » Que cette déclaration résume un peu le fil rouge du livre.
Oui, absolument. C'est vraiment l'idée. Hein. Donc effectivement, comme je le dis au courrier du Pédré, je n'ai aucune prétention au niveau de voilà en tant qu'historienne. Hein. Je me présente plus comme une biographe. Et en tant que biographe, j'ai envie de faire connaître certains des histoires et des destins, surtout les plus méconnus.
Et quand on écrit un dictionnaire biographique, j'imagine qu'on passe des heures à la bibliothèque.
Alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'était plutôt aux archives municipales où j'ai quand même passé énormément de temps. Ça a été un petit peu compliqué parce que donc avec la crise sanitaire, il y a eu des périodes où je ne pouvais pas m'y rendre. Donc ça a rendu le travail un petit peu plus compliqué. Mais oui, en effet, j'ai passé de longues heures aux archives municipales, un petit peu aux archives départementales et aussi à la Maison de l'Histoire, à la Bernerie.
Et vous avez aussi fait des rencontres comme Astrid, une descendante de Jeanne de Belleville.
Oui, j'ai fait plusieurs rencontres, hein, puisque donc j'avais vraiment la volonté de rencontrer le plus de personnes possible, que ce soit des membres de la famille ou des descendants, ou pour les derniers portraits, même les personnalités elles-mêmes. Donc en effet, oui, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion, et presque, je dirais, le privilège de rencontrer la descendante de Jeanne de Belleville.
Donc Jeanne de Belleville, dite la tigresse bretonne, est une femme noble du 14e, devenue pirate par vengeance. Pourquoi sa vie a été étonnante?
Mais sa vie a été étonnante parce que bon, alors il y a l'histoire et puis il y a la légende. Hein. Donc la rencontre avec Astrid de Belleville m'a permis un petit peu de faire la distinction entre les deux, même si c'est compliqué de savoir exactement. Mais c'était quand même, quoi qu'il en soit, c'était une femme extraordinaire qui a eu un destin hors du commun et qui quelque part, à cette époque-là, était déjà féministe.
Qu'est-ce qui l'a poussé de passer d'une noble à une pirate?
Alors, eh ben, c'était l'exécution de son mari Olivier de Clisson, voilà, hein, qui a été exécuté, et donc pour le venger, elle a décidé de devenir pirate. Mais alors là, encore une fois, ça fait partie de la légende, hein, même si c'est qu'elle est partie sur un navire, on ne sait pas exactement, hein, cela reste quand même des suppositions, mais il y a quand même de bonnes raisons de croire que c'était son but, hein, de vraiment venger son mari.
En octobre 2018, j'ai fait une chronique sur la vie de Jeanne de Belleville dans Curiosité, la quotidienne de Prune. Je vous propose de la réécouter.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans Curiosité. On est ensemble jusqu'à 19h et avant de donner la parole à une historienne, eh bien je vous propose d'écouter la chronique historique, elle aussi, puisqu'on est très très bien coordonnées, de Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonsoir Constance.
Aujourd'hui, tu nous parles d'une femme devenue pirate par vengeance.
Oui, c'est bien ça.
Moment d'histoire.
Mettons fin à la domination masculine en histoire. Vous avez peut-être entendu ces mots au début du mois d'octobre. Peu avant la 20e édition des Rendez-vous de Blois, 440 historiennes françaises ont publié une tribune dans Le Monde. C'était le 3 octobre, pardon. Aujourd'hui, elles sont 520. Elles dénoncent le manque de visibilité des femmes dans leur discipline. Symptomatique du patriarcat dans l'histoire, l'affiche du festival n'était autre une femme invisibilisée, en l'occurrence une Mona Lisa floutée et en second plan. C'est d'une femme dont je vais vous parler aujourd'hui, Jeanne de Clisson, une des premières figures féminines de la piraterie française. Au cours de la guerre de Cent Ans qui oppose la France à l'Angleterre, un nouveau conflit vient semer le trouble dans le royaume de France, la guerre de succession de Bretagne. Le duc de Bretagne meurt en 1341 sans aucun héritier mâle. Deux hommes se disputent la gouvernance du duché de Bretagne. Le premier, Jean de Montfort, héritier légitime du duché, est soutenu par les Bretons. Ces derniers refusent l'annexion de la France et préfèrent s'allier au roi d'Angleterre, Édouard III. Le second homme, Charles de Blois, est défendu par le roi de France, Philippe VI. Parmi ses partisans, on retrouve Olivier de Clisson, mari de Jeanne. À l'époque, la Bretagne est une position stratégique importante. Elle a la possibilité d'offrir un avantage déterminant dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Après deux ans de guerre, les Bretons sont vaincus à Nantes et Jean de Montfort est fait prisonnier. Olivier de Clisson est accusé injustement par le roi de France de vouloir livrer la ville de Nantes aux Anglais et de le trahir en rejoignant le clan des Montfort. À l'occasion d'un tournoi organisé à Paris le 2 août 1343, le roi Philippe VI ordonne la capture d'Olivier de Clisson. Accusé de haute trahison, il est arrêté, condamné à mort, sans le moindre jugement, puis décapité. Humiliation suprême, afin d'en faire un exemple, la tête d'Olivier est envoyée à Nantes et plantée sur une lance au-dessus de la porte Sauve-Tout, comme un vulgaire trophée. C'est à ce moment précis que le destin de Jeanne prend une autre tournure. Elle est impuissante face à cette mise en scène et dévastée par la mort injuste de son mari. Elle décide de ne pas laisser mourir de chagrin et jure de se venger du roi de France et de Charles de Blois. En décembre 1343, il condamne Jeanne au bannissement du royaume et à la confiscation de ses biens. Mais cette dernière anticipe, vend de nombreux biens et utilise cet argent pour constituer une véritable armée. Quelques jours plus tard, elle pénètre avec ses hommes dans l'enceinte du château Thébault, dont le seigneur est un fidèle soutien de Charles de Blois. Tous les habitants du château sont massacrés, y compris les femmes, enfants et domestiques. Pendant plusieurs semaines, c'est un véritable carnage. Elle détruit au moins 6 castels et massacre toutes les troupes favorables au roi de France qu'elle croise. On la surnomme désormais la Lionne de Bretagne. Menacée sur terre, elle fait armer 3 navires et mène une guerre de pirates contre les bateaux français. Cette guerre de course dure quelques mois et prend fin quand les vaisseaux du roi de France s'emparent de la flotte noire de Jeanne. Elle se réfugie avec ses 2 fils à Morlaix, toujours fidèle au camp des Montfort. Elle épouse par la suite un lieutenant du roi d'Angleterre installé en Bretagne, auprès duquel elle finira paisiblement ses jours. Ne craignant ni Dieu ni diable, sa beauté et férocité firent l'admiration de ses contemporains. Dans les croyances populaires, Jeanne reste une impitoyable guerrière. La guerre de succession de Bretagne se termine en 1364. Jean III de Montfort est reconnu comme le seul duc de Bretagne après avoir écrasé et tué son rival Charles de Blois lors de la bataille de Ray. Donc merci, la semaine prochaine je vous parlerai de l'invasion viking dans la ville de Nantes en 843.
Et merci à toi Nicolas, je rappelle que l'émission et donc ta chronique sont à réécouter sur le site de Prune, www.prune.net.
Moment d'histoire.
Nous sommes de retour dans Moment d'histoire.
Jeanne de Belleville, qu'elle le veuille ou non, participe au combat féministe, comme vous l'avez dit auparavant. Outre la seule consigne des éditions du Petit Pavé qui était de couvrir toutes les époques, vous avez tenu à respecter la parité 22 hommes et 22 femmes.
Oui, ça j'y tenais vraiment parce que j'ai constaté que dans ce genre d'ouvrage, les femmes étaient quand même très très souvent sous-représentées. Donc pour moi, c'était très très important d'avoir la parité dans mon livre.
Donc c'est un livre assez généraliste puisqu'il couvre toutes les périodes, mais aussi tous les domaines, littérature, politique, religion, sport, médecine, art. Dans le domaine sportif, revenons sur Sarah Abitbol. Vous avez eu la chance de vous entretenir avec elle ?
Oui. Elle a accepté d'échanger avec moi. Donc j'ai eu la chance de lui parler via le logiciel Zoom. puisque elle habite à Miami depuis quelques années. Donc j'ai eu la possibilité d'avoir un entretien avec elle.
Et en quoi ça a pu faire avancer votre écriture sur son chapitre ?
Ça m'a permis de valider certains points de sa vie, parce que donc c'est vrai que pour ce qui la concerne, je n'avais pas forcément beaucoup d'éléments. Donc j'ai pu compléter un petit peu son portrait, puisque pour chaque personnage, j'ai souhaité resituer un petit peu le contexte familial, hein, ne pas parler que des exploits ou des accomplissements de la personne elle-même, hein, mais de resituer un petit peu la personne dans son cercle familial ou ce qu'elle aime faire en dehors de son travail, ou elle allait en vacances, enfin voilà, d'ajouter un petit peu des choses
personnelles.
Personnel.
Donc, pour rappel, Sarah Bitbol, c'est une patineuse artistique française. Oui. Elle est née en 1975. Et elle commence à patiner à partir du début des années 90.
Tout à fait.
Par la suite, elle a quand même remporté une médaille de bronze au championnat du monde. C'était le premier couple français à remporter une médaille au championnat du monde depuis André et Pierre Brunet en 1932.
C'est cela, oui.
Donc la plupart des personnalités sélectionnées sont nées à Nantes. Vous évoquez Aimé Delrue, nom éponyme d'un arrêt de tram bien connu. Je pense que nos auditeurs qui nous écoutent attendent avec impatience d'en savoir un peu plus sur le personnage.
Oh ben non, c'est dans mon livre, il n'y a rien d'inédit. Je pense que tout le monde connaît très très bien le personnage, hein, qui était vraiment très très populaire. Alors je n'ai pas trouvé d'informations inédites, mais alors Aimé Delrue est un Nantais d'adoption, parce que dans mon livre il y a quelques Nantais d'adoption. Ils ne sont pas tous nés à Nantes ou dans le département, hein. Donc c'est le cas d'Aimé Delrue, hein, qui est né à Armentières dans les Hauts-de-France. Il a été connu et est encore bien connu pour la République des Ponts qu'il a fondée. Quelqu'un qui a su à la fois distraire, mais aussi résoudre des conflits sociaux et qui est venu en aide aux familles en difficulté.
C'était un politique ?
Non, c'était pas un politique, c'était un amuseur et un philanthrope. Il a été aussi, dans les années 30, acteur et producteur d'une compagnie théâtrale, hein, qui s'appelait Le Réveil Nantais. Il a aussi créé une revue éponyme. Ces spectacles, c'était des spectacles satiriques sur l'actualité nantaise. On ne peut pas l'assimiler à un homme politique. Et aussi, lui qui a lancé la coutume du lait de mai, et qui permettait une dégustation gratuite de lait. Et il a également créé un comité des fêtes pour relancer la mi-carême et le carnaval à Nantes. Cher dans le cœur des Nantais.
Et dans mon histoire, on respecte aussi la parité. Après avoir évoqué Jeanne de Belleville, Sarah Bitbol, puis Aimé Delrue, on va revenir sur un dernier tome, Serge Dano.
Oui.
Donc c'est le créateur du Manège Enchanté, c'est ça ?
Voilà, c'est cela, oui. Le Manège Enchanté que tout le monde... enfin, pour une certaine génération... a bien connu. Donc oui, c'était un personnage, on va dire, atypique. Alors, en ce qui le concerne, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Martine Dano, sa dernière épouse, hein, qui a bien gentiment voulu me parler de lui. Voilà.
Et il est enterré à Nantes avec une tombe assez atypique.
Oui, la tombe est aussi atypique que le personnage, en effet, oui. Au cimetière de la Bouteillerie, voilà, c'est ça. Oui.
Très bien. Donc on arrive dans la fin de notre entretien. Donc, si nos auditeurs veulent se procurer votre livre, où peuvent-ils le trouver?
Alors, on peut le trouver directement sur le site de la maison d'édition.
D'accord.
Également dans la plupart des centres commerciaux comme les Leclerc, hein, il est dans la plupart des Leclerc, dans les librairies à Nantes, dans certains Super U, voilà, enfin à la Fnac également. Donc je pense que c'est assez facile de le trouver.
Et quelles sont vos prochaines actualités?
Alors, mes prochaines actualités, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que prochainement devrait paraître la biographie romancée d'un personnage de ce dictionnaire biographique.
Eh bien, on a hâte d'en savoir plus. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ?
Écoutez, non, j'ai pas de mots particuliers, donc j'invite évidemment... J'invite évidemment tout le monde à découvrir ces personnalités plus ou moins célèbres, mais qu'elles restent dans la mémoire collective.
Bien, merci Isabelle Pouy d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez présenté votre livre 44 célébrités de Loire-Atlantique aux éditions Le Petit Pavé. Bien, à bientôt.
Bientôt.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Yeah, boy.
c'était Todo Negro. Nous sommes de retour dans Moment d'Histoire. Je vous propose maintenant la rediffusion d'une chronique retraçant le parcours d'un poilu.
C'est le moment d'histoire de Nicolas et aujourd'hui nous allons retracer le chemin d'un poilu.
Moment d'histoire.
Hier, on commémorait le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Des milliers de cérémonies ont lieu partout en France. À Nantes, la statue de la délivrance a été inaugurée. Sculptée en 1914, elle retrouve sa place en bas du square du Maquis de Saffré. Cet anniversaire, c'est aussi le temps de la récupération politique de l'histoire, ainsi que des débats futiles dans les médias sur la place des grands chefs militaires dans le conflit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un inconnu. Un poilu, comme on les appelle. Cet homme se nomme Emmanuel Favreau. Il est né le 21 novembre 1886 à Danvix, un petit village vendéen à 2 heures de Nantes. Issu d'une famille de cultivateurs, il perpétue la tradition familiale en travaillant la terre à son tour. À 23 ans, il épouse Gilberte, de 2 ans sa cadette. Il s'installe dans le bourg du petit village, dans un petit foyer. De cette union naît Alfred en 1911. La famille mène alors une existence paisible. Probablement difficile à certains moments, vivre de l'agriculture au début du XXe siècle est un travail de dur labeur. Mais ils sont heureux. Cet équilibre est bouleversé le 2 août 1914, quand cette famille prend connaissance de l'ordre de mobilisation générale placardé sur la place du village. Comme 4 millions d'hommes, en France, Emmanuel doit partir à la guerre. Il est contraint de laisser Alfred et Gilberte, alors que les travaux des moissons vont commencer. Elle va assumer seule les tâches de la ferme et l'éducation du petit. Cette responsabilité, elle l'assume brillamment. Cela n'empêche pas les inquiétudes d'Emmanuel, qui, dans chacune de ses lettres, éprouve de la bienveillance envers son épouse. Une phrase a retenu mon attention. « Tu me dis que vous avez été au fourrage pour Marceline. Fais bien attention, ma chérie, à ne pas en faire trop. » Avec beaucoup de recul, j'imagine le douloureux ressenti de cet homme, impuissant face à la distance qui les sépare. Leur seul lien, quelques lettres inondées de mots doux et rassurants, ainsi que des moments de vie du quotidien, puisque toutes les autres informations délicates sont censurées. Peu importe, c'est un signe de vie. Dès 1914, Emmanuel est enrôlé dans le 153e régiment d'infanterie et envoyé sur le front, non loin de la frontière belge, pour combattre face aux Allemands. Avec sa compagnie, il participe au premier échec français de la Première Guerre mondiale, lors de la bataille de Morhange en août, puis au premier succès, en fin d'année, à Ypres. En 1915, il contribue à la bataille d'Artois et à la seconde bataille de Champagne. En 1916, il est envoyé dans les horribles tranchées de Verdun, là où 700 000 hommes français-allemands perdirent la vie. Il en sortira indemne, ce qui lui vaudra une permission de 6 jours en mai. C'est très court quand on connaît les 2 jours aller-retour qui séparent le front de l'Est à la Vendée. Certes, mais c'est toujours ça de prix. Gilberte accompagne même Emmanuel prendre le train à Nantes, afin de ne perdre aucun instant. J'imagine la pénible séparation sur ce quai de gare, ainsi que le temps de baisers interminables, comme si c'était les derniers. Malheureusement, ce fut le cas. Le 6 juin 1916, Emmanuel écrit une lettre à Gilberte, qui est la dernière. Il y évoque le front. « Je suis toujours aux tranchées. Ça vaut mieux qu'à Verdun. C'est très calme pour le moment. Je ne sais si c'est que je m'ennuie beaucoup, mais je suis tout mal fichu, mais pas de danger que je sois évacué. » Puis il termine simplement par ces mots « Je suis à toi, pour toujours. » C'est comme si inconsciemment il se doutait de sa mort prochaine, cette mort qu'il côtoie quotidiennement. Quelques semaines plus tard débute un des plus sanglants affrontements de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme. Au bout de 2 jours de combat, Emmanuel disparaît dans une tranchée entre les obus. Il allait sur son 30e anniversaire, mais cette aberrante guerre en a décidé autrement. Comme Emmanuel, 10 millions de militaires sont morts en Europe et également autant de civils. J'imagine le soulagement des survivants qui cançonnent l'armistice du 11 novembre 1918, sont passés entre les filets de la mort. Mais ce ne fut en réalité que le début de leur souffrance, comme 20 millions de blessés. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles les marqueront à vie. J'imagine cet ancien poilu qui, quelques années après, la guerre tombe sur une vieille photo de classe et s'aperçoit qu'un tiers de ses anciens camarades sont tombés au front. Cette chronique est un hommage à toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, de toute nationalité qu'elles soient. Mortes à cause de la bêtise des gouvernements européens de l'époque, mortes par des décisions criminelles des généraux qui envoyèrent des vagues humaines vers un échec certain, mortes pour un conflit dont l'origine est autre que des querelles politiques et économiques, si loin des préoccupations quotidiennes des populations. Comme le disait Anatole France dans les colonnes de l'Humanité en 1922, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Ces chroniques est aussi un hommage familial, puisqu'Emmanuel Favreau fut mon arrière-arrière-grand-père, soit le grand-père de ma grand-mère Jeanne.
You can't stop me, oh. You can't stop me, point and kill.
You can't use my water. Hey, if they use my water, they tell you, still they use me the same. What did they do you? You want my beat you? Eh? Be like say you chop frog.
Come on. Piano man, piano man, piano hero. I let it go.
c'était Little Sim Point and Kill. Pour terminer l'émission, je vous propose de nous quitter sur la lecture de la nouvelle Nantes s'endort d'Eliane Larousse par Lucille Delanoë. Le texte a été présenté lors du concours d'écriture organisé par le Théâtre de la Ruche courant 2020. Vous pourrez retrouver le podcast sur le site de Prune ou sur la page Facebook Moment d'Histoire-Prune92FM. Chers auditeurs, bon après-midi.
Moment d'Histoire. Nantes s'endort d'Eliane Larousse. Naguère, il y a tantôt 30 années, Gilles Servat chantait Nantes s'endort. Ayant vu fermer ses derniers chantiers navals, la ville s'engourdissait lentement. Mais bientôt, elle se réveillait. Les chantiers devenaient lieux de promenade sous l'égide de la Titan jaune. L'éléphant pointait sa trompe hors les nefs pour ses premiers pas. La ville dansait et chantait sous la musique, inventait de nouveaux jardins et redécouvrait son fleuve. Le château, Mont-Blanc voisin, ouvrait l'histoire entre ses remparts, baigné des douves où s'ébattent canards et carpes gourmands et familiers. Il répond à la cathédrale, sous les voûtes de laquelle roulent les orgues, berçant le sommeil de marbre des parents d'Anne. Anne, qui regarde son château là où elle est née. Anne, qui marche vers lui d'un pas décidé pour guider les visiteurs d'un jour ou de toujours. Mais une pesante malédiction s'est abattue sur la ville, sur le pays, sur le monde. Naoned est retombée en léthargie. Si la loi roule toujours vers l'océan, la vie s'est figée en attente de libération. Le Bouffet, mon quartier si animé, ne répond plus. Sur la place qui abrita les célèbres prisons, où furent exécutés Gilles de Rais et le marquis de Pontalec, seule la statue continue son pas de côté. Seule. Mais il y a une autre statue qui refuse de se résigner, une statue qui ne veut plus être statique. Anne s'en va, la nuit, ouvrir les portes de son château. Elle interpelle tous ses objets, mémoire de la ville. Elle leur redonne vie. Ils quittent leur vitrine, mènent une sarabande au travers des salles, se mélangent. Pourquoi séparer les siècles? Nous sommes Nantes, nous sommes l'histoire d'avant l'histoire. Nous sommes les nanettes qui résistèrent à Rome aux côtés des Vénètes. Nous sommes les armateurs qui oignons les façades de ces mascarons, affichant insolemment notre fortune, rieurs, sérieux, porteurs d'Afrique ou d'Amérique. Ils vous interpellent. Écoutez-les. Je suis Lady, vous savez, Lady de Nantes. J'ai droit à une place à mon nom. J'ai mis fin par la volonté du bon roi Henri aux guerres dites de religion. Pourquoi Nantes? Parce que, dans la très catholique Bretagne, la ville ouvrit grande ses portes au Bourbonnais roi de Navarre, devenu roi de France par la grâce d'une messe. Je suis Lady, dit de rattachement, qui en ce lieu et par la grâce du Parlement de Bretagne, acheté à grands frais, mit fin à l'indépendance du duché. Pauvre Anne, elle qui lutta pour le maintenir libre. C'est pas ça qu'Anne a voulu, disait Gilles Servat. Coquiguen à Coquidou. J'ai droit à une plaque dans la cour pour rappeler cette infamie. Puis vint l'époque des conserveurs, des usines de Chantenay, où les ouvriers venus de Basse-Bretagne, qui œuvraient pour emboîter sardines et légumes, se mêlaient à ceux des chantiers navals qui construisaient sur l'île les navires partant vers des lointains pour en rapporter les richesses des colonies. Quai des Antilles, en gare à bananes, là naquit le Bellem, aujourd'hui témoin de cette époque active et laborieuse qui continue à porter fièrement les couleurs de la ville sur les mers du globe. Puis vint Rémy Lefebvre, débarqué de Reims, avec le secret des délicieux gâteaux qui mirent un peu de sucre, ce sucre qui venait des Antilles, dans les austères biscuits de matelots, bien pratiques à emporter pour les longues navigations, nourrissants mais peu gourmets. Rémy épousa la fort utile Pauline, créant la biscuiterie Lu qui parfuma le cœur de ville durant des décennies. Aujourd'hui, le Lu est un lieu de culture et de rencontre qui garde la touche usine avec sa tour sauvée in extremis de la destruction. Les boîtes ornées s'ouvrent laissant échapper Paille d'or et Petit Lu. Ah, donne-le là à cette danse des souvenirs. Le château ne dort pas complètement, il est en veille. Il nous attend avec Anne. Il attend avec ses canards tout mari de ne plus avoir leurs visiteurs des beaux jours, dans la main desquels ils venaient manger, disputant les miettes aux pigeons. Duchesse Anne, château des ducs de Bretagne. Le tram roule au ralenti entre la tourlue et les remparts. Ce tram qui conduit au pont Duchesse Anne, Car, qu'on se le dise, Nantes est en Bretagne et Anne en fut duchesse. Duchesse et deux fois reine de France, mais toujours bretonne. Elle offrit son cœur à la ville. Dorme son cœur brodé d'or, si mort à mort. Anne veille sur son château, qui veille sur la ville, en attendant son second réveil sous le ciel de printemps. Le printemps à Nantes, le printemps de Nantes. Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.